Bonsoir. Bonsoir, chers amis Belforté. J'ai cru que je n'allais jamais arriver en territoire de Belfort. C'était la première fois. Le règne humain, dans un premier temps, a retardé le train à Dijon, puisque des gens étaient sur la voie. Et parce que ça ne suffisait pas, le règne animal s'y est mis avec le sanglier. Il ne manquait plus que le règne végétal, et là, la boucle aurait été bouclée. Donc je suis très content d'être parmi vous ce soir. J'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois sur le sujet de l'islam et la bioéthique, certaines positions des penseurs musulmans, des cadres religieux sur toutes ces questions que soulève la bioéthique. Alors moi je suis docteur en études arabes et en islamologie. De l'Université de Strasbourg, également diplômé en islamologie à l'école pratique des hautes études, le temple de l'islamologie sur Paris. Et j'anime également, je préside également une académie française de la pensée islamique, donc qui se donne entre autres comme objectif d'essayer de rassembler toutes les sensibilités intellectuelles de l'islam de France. Et surtout des personnes qui s'inscrivent au moins dans trois façons de voir le patrimoine intellectuel et spirituel de la civilisation musulmane. Tout d'abord, ceux qui sont dans une approche théologique, premièrement. Deuxièmement, ceux qui sont dans une approche philosophique. J'ai vu également qu'il y avait mon ami Ralad Belcher qui était un habitué du territoire de Belfort. Et également, troisièmement, ceux qui s'inscrivent dans une démarche mystique. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir un sujet comme la bioéthique et vous avez... c'est intéressant parce que très souvent, on a un peu le sentiment en France que les musulmans pensent et peuvent agir comme un seul homme. Or, il y a énormément de diversité, autant que la religion chrétienne, autant que la religion juive, autant que les philosophies humanistes de manière générale. Il y a énormément de diversité et je pense qu'on aurait tout à gagner aussi, que ce soit en France, de l'apprécier comme tel. Et quand j'interviens aussi à l'intérieur de la communauté musulmane, j'essaie aussi de mettre en avant cette diversité. Parce que même la diversité, on a aussi un peu de mal à l'intérieur même des communautés musulmanes à l'assumer. Ça, je pense qu'on en sortirait grandi si on était capable de faire discuter toute cette richesse intellectuelle. Alors... pour le sujet de ce soir, concernant les intellectuels, la position des intellectuels musulmans face aux questions de bioéthique. Dans le cadre de l'AFPI, j'ai été sollicité par le comité consultatif national d'éthique pour une contribution, chose que nous avons préparée. C'était pas simple du fait de la diversité, c'était pas simple par rapport aux questions qui sont inédites. Et en même temps, pas tant que ça. Sur la question de la sexualité, sur la question de la filiation, sur la question de l'adoption, quand on revient dans le patrimoine intellectuel musulman, ça a déjà été abordé. D'ailleurs, même avec plus de pragmatisme que de dogmatisme. C'est-à-dire, voilà, les questions arrivent et on les aborde de manière finalement assez pragmatique. Il y avait une autre question également qu'il fallait aborder également, c'est la question de l'islam. Qu'est-ce qu'on entend par islam? Est-ce que l'on entend par islam une religion qui apporte un cadre légal, qui valorise le mariage entre un homme et une femme, qui de type patriarcal? Est-ce que l'on parle de l'islam en tant que culture? Ou alors est-ce que l'on parle de l'islam en tant que civilisation? Ça, il fallait aussi, avant même de réfléchir à quelle contribution nous pouvions apporter dans le débat public, déjà nous positionner. Nous, notre démarche a été effectivement de se positionner à partir de l'islam en tant que religion. Et alors même là, il y a une autre question qui se pose. Quelle sensibilité de l'islam? Est-ce qu'on se place du point de vue sunnite? Est-ce qu'on se place du point de vue chiite? Est-ce qu'on se place du point de vue khalijite? Là, encore une fois, nous avons choisi effectivement on va dire l'obédience majoritaire au sein de l'islam. Et à partir de là, on a décidé de faire une recherche. Si on veut répondre aujourd'hui aux questions de bioéthique, il fallait répondre à une question dans un premier temps, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on entend par filiation à l'intérieur même de l'islam. Et en faisant ce travail de recherche, on s'est rendu compte que dans la langue arabe, vous avez au moins 19 occurrences. Rien que sur le mot en langue arabe qui se dit nasab. Ce mot-là, il y a au moins 19 sens possibles dans la langue arabe. Ensuite, on a étudié le Coran sur la question de la filiation et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 occurrences. Et enfin, dans la tradition prophétique, on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était la question de la filiation, de l'adoption, était abordée, notamment avec le prophète de l'islam a eu un fils adoptif, donc tout de suite la question de la filiation a été posée. Et finalement, on s'est rendu compte que voilà, sur ces questions-là, on les abordait avec assez de manière très libre, mais en même temps, quelle définition nous prenons en compte ? Quel choix dans les occurrences faisons-nous ? Ça aussi, quand on fait ce travail-là, un travail intellectuel pour d'ijtihad, c'est-à-dire d'effort d'interprétation, il faut aussi être capable de, sachant que la langue arabe est une langue polysémique, il faut être capable d'apprécier aussi les différents sens, d'avoir également un regard historique, c'est-à-dire dans quel contexte le verset coranique arrive. Et on sait très bien aussi qu'il y a un arrière-plan culturel arabe très important, dans lequel il y a une économie de la solidarité tribale très important. Et forcément, cet arrière-plan culturel donne une coloration également aux versets coraniques, aux différents versets coraniques qui vont parler de la filiation. Donc quand on aborde en fait ce sujet-là, il faut être capable de déblayer le terrain. C'est pas chose facile. Et là encore, nous en sommes qu'au niveau d'une démarche étymologique et une démarche de lecture des sources de l'islam. Nous n'avons pas encore abordé 14 siècles de débats sur ces questions-là. Et là, nous arrivons à une autre problématique, c'est que le droit musulman, c'est un droit évolutif. Dans le droit musulman sunnite, vous avez 4 grandes écoles juridiques. Vous avez le hanafisme, vous avez le malikisme, vous avez le chaférisme et vous avez le hanbalisme. Donc 4 grandes écoles. Alors je vais même toutes les répéter. Le hanbalisme, le chaférisme, le malikisme et le hanifisme. Donc voilà, déjà vous avez 4 grandes écoles juridiques reconnues dans le monde sunnite, qui ont un rapport intellectuel avec les sources de l'islam suivant. Tout d'abord, il y a un rapport au texte coranique. Ensuite, après le texte coranique, il y a un rapport à la tradition prophétique. Et c'est ensuite, à partir de ces deux exercices, que les savants musulmans sont entrés dans ce que je disais tout à l'heure, l'ijtihad, c'est-à-dire un effort d'interprétation intense vis-à-vis des sources de l'islam en vue de trouver des solutions pratiques aux besoins des musulmans. Donc grosso modo, voilà un peu comment les savants musulmans dans l'époque classique, voilà comment ils abordaient des nouvelles questions sur la question de la filiation, sur la question de l'adoption. Dans l'effort d'interprétation, vous avez la déduction, ce qu'on appelle al-qiyas, ou vous avez ce qu'on appelle également le consensus des savants, qui s'appelle al-ijma. Donc ça aussi, ce sont à l'intérieur même de l'effort d'interprétation, deux types d'exercices. Un type d'exercice où vous êtes dans un concile, un conciliabule, où les savants se mettent d'accord, et majoritairement, ils décident d'opter plus sur cette option que l'option A, que l'option B. Mais vous avez également le qiyas, qui est un raisonnement analogique, On part d'une situation qui a existé du temps du prophète face à une situation inédite et on essaye de trouver un lien, ou en tout cas on essaye de réfléchir sur une situation qui a déjà existé pour essayer de légiférer sur une situation nouvelle. Tous ces savants se basent également sur des finalités de l'islam. On a parlé des fondements de l'islam, on a parlé de la pratique du droit musulman, mais il faut également parler des finalités de l'islam. Les savants musulmans en ont répertorié 5, ils ont hiérarchisé. La première finalité, c'est la religion, din. La deuxième, c'est la vie, an-nafs, et c'est ce qui va nous intéresser dans notre propos. La troisième finalité également, an-nasab, la filiation. Ensuite, la quatrième, la raison, al-aql. Et enfin, la cinquième, la préservation des biens, al-mal. Donc déjà, sur les 5 finalités de l'islam, on en a 2 qui nous intéressent. La première, c'est la vie, donc la sacralité de la vie. Et en même temps, peut-être même la sacralité de la filiation également. Nous aurons l'occasion ensemble de le voir. Et alors, globalement, l'histoire de la civilisation, l'histoire du droit musulman, c'est une triple tension. Il faut toujours avoir à l'idée cette triple tension. Vous avez une volonté de produire une loi islamique, ce qu'on appelle la charia. Vous avez également le droit coutumier, puisque l'islam arrive dans des contextes culturels au pluriel. Et donc vous avez une négociation entre un droit musulman qui s'élabore et des nouvelles sociétés. Prenons un exemple, l'excision n'existe pas dans l'islam. Mais c'était déjà une pratique qui existait dans certaines sociétés qui se sont islamisées. Donc vous avez une négociation. Au Maghreb, on pourrait également citer des exemples similaires, où parfois vous avez du mal à savoir ce qui relève de la religion ou ce qui relève de la magie. C'est une réalité. Donc c'est intéressant de voir que depuis 14 siècles, il y a toujours de la négociation entre un droit musulman qui pose un cadre, des fondements, des finalités, et des pratiques culturelles. Et vous avez constamment des négociations. La semaine prochaine, nous allons fêter, dans le calendrier musulman, le Maulid Nabawi, la naissance du prophète de l'islam, entre la nuit de lundi à mardi, en principe. Ce n'a pas toujours été le cas, mais les sociétés, ont progressivement, à partir du 11e, 12e siècle, et davantage à partir de Saladin, la dynastie des Ayyoubides, ils ont décidé de commémorer la naissance du prophète de l'islam. Quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça correspondait aussi à un besoin des musulmans, et ça correspondait aussi à l'émergence d'un certain nombre de confréries soufis qui ont fait du témoignage de l'amour envers le prophète de l'islam, une condition très importante de leur pratique de l'islam. Et donc c'est toujours intéressant de voir un peu, et encore aujourd'hui, l'islam, le monde musulman, les communautés musulmanes de France sont encore traversées par cette tension entre loi religieuse et pratique culturelle. Et il y en a une troisième, c'est le degré de civilisation. Le degré de civilisation, notamment par rapport aux questions de la sexualité. Prenons la question de la sexualité. Quand vous lisez, par exemple, les travaux d'un Ibn Hazm, qu'on considère comme... qui était un Andalou, qui était un savant musulman européen, qui était un théoricien de l'amour, et d'ailleurs même ses travaux ont beaucoup influencé les troubadours d'Occitanie, et donc avec un certain nombre de poèmes qui valorisaient la femme, chose qui était quand même assez avant-gardiste. Hein. À cette époque-là, ça a été possible parce que vous aviez un degré de civilisation qui était très haut. D'ailleurs, même ce qui est intéressant, c'est quand j'anime des séminaires sur l'histoire l'islam et des musulmans en France depuis 14 siècles. Mohamed Harkoun avait fait ça il y a 10 ans, il y a un livre assez volumineux où il a sollicité 70 grands chercheurs français qui ont travaillé un petit peu sur cette présence musulmane qui ne date pas plus que depuis il y a 40 ans, mais qui a toujours existé depuis la bataille de Toulouse en 721 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir également les représentations qu'on pouvait avoir sur l'islam. Et l'islam était considéré par les chrétiens, notamment en Gaule, puis en France, comme une religion libertine. Ça, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout l'image qu'on aurait aujourd'hui. Moi-même, moi le premier, j'ai été choqué à travers mes recherches de voir effectivement les représentations qu'on pouvait avoir, que le monde occidental pouvait avoir vis-à-vis du monde musulman. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes représentations, on peut les avoir dans le monde musulman, vis-à-vis du monde occidental. Vous voyez comment le degré aussi de civilisation, il est très important. Aujourd'hui, tout ce que Ibn Hazm pouvait dire sur l'amour courtois, en espagnol on disait ça le fin amor, tout ce qu'on pouvait dire sur l'amour, les savants musulmans avec une relative liberté, la façon même dont ils en parlaient avec des mots extrêmement forts, extrêmement romantiques, aujourd'hui ça choquerait énormément de savants musulmans. Des choses, des savants musulmans qui ne pourraient pas avoir un dixième de ce que un savant andalou pouvait dire 10 siècles auparavant. Ce qui veut bien dire que le degré de civilisation, il est toujours à prendre en compte. Et que dès que vous avez une civilisation qui se cherche, c'est un peu le cas aussi du monde musulman actuel, c'est-à-dire de rechercher peut-être un nouvel élan civilisationnel, de dépasser les blessures égotiques, ces longs siècles de léthargie, cette blessure du choc colonial, il y a aussi un repli sur soi, une pensée sclérosée, une pensée tétanisée, et même sur une thématique comme la sexualité. Un Ibn Hazm 10 siècles auparavant pouvait être beaucoup plus moderne que les savants musulmans d'aujourd'hui. Voilà la réalité. Donc c'est vraiment cette triple tension, et j'aimerais vraiment attirer votre attention, droit, loi islamique, la charia, pratique culturelle, le droit coutumier, et en même temps, degré de civilisation. Alors, forcément, qui dit tension dit mouvement, donc le droit musulman n'est pas dogmatique. Et chaque avis religieux est circonstancié. Il vaut dans une société donnée, donc dans un temps donné, dans un lieu donné, et en fonction également des habitudes culturelles de l'époque. Et ce qui veut bien dire que dans l'islam en tant que religion, même en 2018, un avis qui est émis dans le monde musulman est inopérant ici. Ce que je vous dis, les non-musulmans ne le savent pas forcément, mais même les musulmans également. C'est-à-dire que, alors a fortiori, quelque chose qui a été dit il y a 7 ou 8 siècles, encore moins opérant dans l'époque dans laquelle nous vivons. Ce qui veut bien dire, encore une fois, c'est qu'il y a une souplesse, il y a un pragmatisme du droit musulman, et il faut le rappeler, parce que très souvent, le droit musulman est caricaturé, par les musulmans eux-mêmes déjà, faute de connaissances sur le sujet. Mais en fait, le droit musulman s'adapte constamment. Et pour vous donner un dernier exemple, j'ai parlé de la troisième école juridique de Chafiei. Il avait émis des avis juridiques à Bagdad et d'autres différents au Caire. Et les gens lui ont posé, ses contemporains lui ont posé des questions, mais comment se fait-il que sur des mêmes sujets, vous avez deux avis juridiques différents? Ben, il leur a dit, c'est très simple, le contexte n'est pas le même. Il n'en parle que d'un seul homme. Sur des sujets qu'il a déjà traités, il a laissé tomber ce qu'il avait dit en Irak, et pour repartir sur une nouvelle réflexion qui prend en compte le contexte. Donc, si l'on en vient à la filiation. Alors, qu'est-ce que c'est que la filiation en islam? La filiation en islam, c'est de porter le nom de son père et de pouvoir hériter de lui. Donc, ces deux dispositions dans le droit musulman, elles sont intimement liées. En islam, c'est davantage le sperme que le sang qui transmet la filiation. Et ça va avoir aussi des conséquences sur les débats qui nous concernent au sujet de la bioéthique. Le cadre légal en islam pour la sexualité, donc avant même la filiation, la sexualité, c'est un cadre qui reconnaît le mariage entre un homme et une femme. Donc forcément, toutes les relations qui ne rentrent pas dans ce cadre-là sont interdites. que ce soit l'inceste, l'homosexualité, l'adultère, la fornication ou la pédophilie. Je les cite, mais on pourrait citer également d'autres, mais vraiment, l'islam insiste beaucoup sur la relation homme-femme, par rapport également à une dimension spirituelle qui est très importante. L'islam aussi se considère comme un cheminement, et que le cheminement pour trouver, pour faire cet effort, et pour réussir finalement à trouver son identité d'homme ou de femme, il y a un moment donné besoin d'avoir un rapport quotidien avec l'altérité que représente la femme pour l'homme, ou l'homme pour la femme. Et en même temps, c'est une remise en question permanente, puisqu'il y a effectivement, par nature et par les attributs de toutes sortes, il y a effectivement des différences. Et ces différences-là ne sont pas vues comme des choses à gommer ou à mettre de côté, bien au contraire. Elles sont au contraire un chemin. C'est-à-dire que on considère en islam que son identité se construit avec l'altérité, et c'est cette identité par l'altérité qui permet aux croyants de s'élever vers Dieu. Et ça, cette dimension, encore une fois, ce cadre s'inscrit aussi dans un cheminement spirituel. De la même manière, entre un homme et une femme, on peut parler également de chasteté. La chasteté, elle est importante, avant le mariage, pendant le mariage. Et qui dit aussi relation entre un homme et une femme, elle est aussi basée sur des valeurs, sur un certain nombre de principes moraux, et c'est ce qui va irriguer, nourrir, accompagner la vie à deux. Et ça, je pense que c'est important à prendre en compte pour rentrer dans cette question de bioéthique qui ont commencé à intéresser les savants et les penseurs musulmans il y a une trentaine d'années. Forcément, elles ont posé des nouvelles questions, mais elles ont commencé dans le monde musulman, ce qui est une trentaine, quarantaine d'années. On était dans un espèce de creux générationnel. Je m'explique, au XXe siècle, tant que la France était une puissance coloniale, elle se présentait elle-même comme une puissance musulmane, vous avez énormément d'intellectuels musulmans de l'islam contemporain qui sont venus en France. Prenons les pères du réformisme musulman orthodoxe, Jamal Din Avrani ou Mohamed Abdou. Ces gens-là étaient déjà en débat avec Ernest Renan, à la Sorbonne. Ils pouvaient venir à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, au contraire, le réformiste avait plutôt bonne presse, d'ailleurs même dans les milieux, chrétiens, protestants et catholiques. Vous avez d'autres auteurs comme Malek Benhabi qui sont venus un petit peu plus tard, énormément d'intellectuels qui sont venus. Sauf qu'à partir de 62, il y a la fin de la guerre d'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, beaucoup sont revenus dans le monde musulman, et notamment en Algérie. Et cette période-là, les années 60-70, à partir des années 70, vous avez 60-70, vous avez une autre génération qui arrive. Et puisqu'on a parlé un petit peu en arrivant avec Monsieur le Président sur la sociologie d'une ville comme le territoire de Belfort, oui, beaucoup d'ouvriers sont venus. Donc avec d'autres attentes, avec un autre horizon intellectuel, spirituel. Donc tous ces débats n'ont pas été abordés tout de suite par les musulmans de France. Ils ont d'abord été abordés dans le monde musulman. Et dans le monde musulman, ces questions de bioéthique, ils ont accompagné toutes les réformes du statut personnel. Dans le monde musulman, il y a eu toute une réflexion sur l'interdiction de la polygamie. On peut citer la Tunisie de Bourguiba, mais on peut également, bien avant, citer également, on va dire, la réforme d'un Mustafa Kemal Atatürk, dans un pays qui, quand même, abriter le califat hein, jusqu'en 1924. Et en même temps, progressivement à partir des années 80, vous avez beaucoup de jeunes étudiants musulmans qui arrivent en France et qui, par la force des choses, vont être amenés finalement à s'intéresser aux questions religieuses. Et alors, vous avez tout type, hein. Vous avez des gens qui s'inscrivent plutôt dans l'islam politique, mais pas seulement. Je lisais en arrivant une biographie du prophète de l'islam de Malek Chebel. Et en introduction à Malek Chebel, qui est d'abord plutôt anthropologue, va s'intéresser à cette question au contact de toutes ces communautés musulmanes, dont beaucoup sont ouvriers. C'est intéressant de voir aussi que, alors que lui-même expliquait qu'en Algérie, bon, il a fait l'école coranique, mais après, plus grand-chose. Mais il va à un moment donné se réintéresser aux questions de l'islam, et même avant même les premières polémiques avec l'affaire de Creil en 1989, en étant au contact avec des musulmans lambda, ouvriers, qui veulent essayer de reconstituer une vie religieuse et qui ont un profond respect pour le Coran, la figure du prophète de l'islam, et qui essayent voilà, d'avoir des petites salles de prière pour avoir une vie culturelle digne. À cette époque-là, en France, on pouvait le faire, parce que des entreprises également. Alors, je ne sais pas si dans le territoire de Belfort, c'était le cas, mais en région parisienne, là où j'habite, des usines comme Talbot ou des usines comme Renault, il y avait des salles de prière. On ne parlait pas forcément d'islamisation de la France, hein. Mais il y avait, puisque les besoins culturels étaient considérés comme des choses importantes pour le salarié immigré. Alors, on essayait de mettre en place un espace de prière. Je referme la parenthèse. Tout ça pour revenir sur tous ces jeunes musulmans qui arrivent dans les années 80, des gens qui sont déjà de formation théologique et qui vont commencer à réfléchir, puisqu'on va leur poser des questions. L'institution, les hôpitaux vont leur poser des questions, des nouvelles questions. Sur la question de la répudiation, la question de la polygamie ou autre, l'institution judiciaire va solliciter également ces jeunes étudiants en théologie. Et voilà, on commence à avoir un début de réflexion sur un certain nombre de questions qui touchent la société française, la communauté nationale et la communauté musulmane qui fait partie désormais intégrante de la communauté nationale. La démarche qu'ils ont spontanément fait, c'est justement d'étudier. Donc ils sont revenus au droit musulman classique. Et ils ont essayé de trouver finalement, ils ont fait par contre un espèce de va-et-vient entre science des textes, donc on revient au patrimoine, mais en même temps on essaye aussi de s'entourer de tous les travaux des scientifiques, des médecins. Et c'est intéressant aussi de le préciser, c'est que c'était pas forcément la religion n'était pas forcément recherchée, c'était pas forcément des médecins musulmans que l'on recherchait. Les savants musulmans, globalement à cette époque-là, ils étaient assez respectueux finalement du savoir scientifique, peu importe la religion d'ailleurs de celui qui la maîtrise. Mais du coup, il y avait voilà, un espèce de va-et-vient, on pose des questions, voilà. Puis il y a aussi des médecins musulmans qui exercent, qui également eux aussi s'intéressent à ces questions. Et vous avez un espace intellectuel qui commence à émerger avec des spécialistes des sciences du texte et, si je reprends la terminologie musulmane, des spécialistes des sciences du contexte, sciences dures, sciences humaines comprises. Et alors, ils vont avoir des positions, notamment sur la PMA, la GPA. Dès lors qu'il y a intervention d'une tierce personne, les penseurs musulmans s'accordent à dire qu'il s'est formellement interdit. Mais dès lors qu'il s'agit d'aider un couple à avoir des enfants, sans forcément l'aide d'une tierce personne, c'est possible. Il y a des cas très précis, des conditions clairement définies. Il faut que ça se fasse du vivant des époux. Il faut pas qu'il y ait une tierce personne. Et on peut essayer de trouver des solutions, mais il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle, je vous parlais tout à l'heure du sperme qui est beaucoup plus important que le sang. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange des spermes. Ça, c'est les musulmans sont, pour le coup, il y a une distinction, il y a une position de principe extrêmement claire sur le sujet. Dès lors qu'il y a un mélange de sperme, Il y a confusion, dans la filiation et ça pose problème. Et ça, j'en parlais tout à l'heure sur l'arrière-plan culturel. Je pense qu'il y a une dimension religieuse, mais une dimension culturelle aussi qui est très forte. Je fais juste une petite parenthèse. Je reviens à l'époque du prophète de l'islam. Quand le prophète de l'islam reçoit la révélation, dans la société arabe de son époque, il y avait des pratiques sexuelles assez débridées, considérées comme assez débridées. Et il pouvait y avoir des pratiques sexuelles à plusieurs. Mais ce qui est assez surprenant quand j'ai fait mes recherches, c'est de voir, alors ça c'était avant l'islam, là où j'ai été surpris, c'est de voir que même s'il y avait une sexualité avec plusieurs partenaires, et que la femme tombait enceinte, ben vous aviez ce qu'on appelle des physionomistes, qui regardaient à qui est-ce que l'enfant va ressembler. Et là, j'étais moi-même surpris. J'ai eu le même au début, le même sourire contenu que vous venez d'avoir. Et au bout d'un moment, j'étais un peu surpris. Mais en même temps, j'ai aussi essayé de comprendre la culture arabe de cette époque-là. On est dans une économie tribale. Et on ne peut pas envisager qu'un enfant soit sans père, qu'un enfant soit sans une mère. Bon, une mère, c'est beaucoup plus simple. Traçabilité, c'est plus simple. Mais un papa, c'est plus difficile. Mais vous aviez alors des physionomistes, et paraît-il qu'il y avait des physionomistes extrêmement brillants, très observateurs. Voilà, monsieur, vous devez être l'enfant d'un, le père de cet enfant. Et finalement, et encore plus intéressant, du coup, le papa en question ne bronchait pas. Oui, très bien, ben je m'en occupe. Parce que même les pères en question, aujourd'hui on a des papas qui peuvent à un moment donné se cacher, là non, c'était quelque chose qui était vécu assez naturellement. Je m'occupe de cet enfant, peu importe ce qui s'est passé. Avant, comment tu es venu? Comment tu es venu? Mais je suis ton père et je vais m'occuper de toi. Et on n'abordait plus le débat par la suite. Et je me suis rendu compte en vérité qu'il y a aussi le contexte culturel qui influence aussi la compréhension que les musulmans ont pu avoir de l'islam, notamment sur ces questions. Et si les savants musulmans insistent bien, mais vraiment, sur cette question-là, il y a absolument pas de débat, bah, il y a une histoire, il y a un historique. Et c'est vraiment resté. Cette coloration, cet arrière-plan culturel arabe est resté. Donc ça, c'est pour ce qui est question de PMA et PMA GPA. Peut-être également parler aussi que l'islam n'autorise pas la préservation du reliquat, que ce soit des spermes ou des ovocytes. Et depuis quelque temps, les intellectuels musulmans mettent aussi en garde la société de manière générale contre ce qu'on pourrait appeler, je mets des guillemets, la location de ventre de femmes. Aujourd'hui, il y a un risque majeur des inégalités dans le monde entre les sociétés du Nord et les sociétés du Sud. Et vu les prix pratiqués pour porter l'enfant d'un couple, parfois qui n'a pas de problème, hein. On ne parle pas forcément de couples qui ont des problèmes, on parle surtout des couples qui n'ont pas de problème, mais pour des conceptions de la grossesse, l'envie de ne pas souffrir, ou l'envie d'une espèce d'un égalitarisme où finalement les deux attendent les 9 mois de la même manière, mais il y a des pratiques et on commence à, entre guillemets, louer des ventres, commercialiser des ventres. Et ça, c'est quelque chose. Voilà, les intellectuels musulmans alertent là-dessus. Faudrait pas que le corps humain est sacré et qu'il y a des choses qui ne doivent peut-être pas forcément être commercialisées de la sorte. Donc les intellectuels musulmans mettent en garde contre ce risque. Concernant la fin de vie. Concernant la fin de vie, il y a deux positions de principe. Il y a déjà une distinction qui est faite entre ce qu'on appelle l'euthanasie passive et l'euthanasie active. L'une est autorisée, c'est l'euthanasie passive, dès qu'on a tout testé et qu'on est dans un espèce d'acharnement thérapeutique. Les savants musulmans disent que la personne, c'est son choix, décide de ne plus prendre de médicaments et d'attendre sagement, sereinement, lucidement sa mort. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, en revanche, ce qui est interdit, c'est l'euthanasie active. Et là, elle est considérée comme un meurtre. Et alors, quand on dit cette euthanasie active est considérée comme un meurtre, les intellectuels insistent également sur toutes ces idéologies qui considèrent que dès qu'on est en retraite, on ne sert plus à grand chose et que au bout d'un certain temps, nos anciens considèrent qu'ils n'ont plus grand chose à apporter. Je pense que c'est la mort d'une société quand nos anciens pensent de cette manière-là. Mais tout le processus qui amène nos anciens à penser cela, en soi, pour les intellectuels musulmans, c'est condamnable. Et il y a aussi une réflexion que la société, dans son ensemble, doit avoir, c'est quelle dignité nous donnons à l'homme. La dignité de l'homme, nous considérons en islam qu'elle est donnée par Dieu, que c'est un don divin. Et ce n'est pas ce que vous produisez dans une société qui va vous en rajouter, elle peut vous en rajouter, mais non, en tout cas, elle ne nous enlèvera rien. Et cet aspect humaniste de l'islam, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas assez entendu, mais il faudrait le mettre davantage en avant. Si vous allez dans les sociétés musulmanes, même si ça s'est dégradé ces derniers temps, quand même un profond respect vis-à-vis des aînés et de ceux qui nous ont précédés. Et ça, je pense que les musulmans, avec d'autres également, doivent continuer à porter ce message-là face à une société marchande qui réifie tout, qui commercialise tout, et qui, à un moment donné, conditionne également notre respect en fonction de ce que vous apportez au marché. Comme si finalement nous étions dans une forme de monothéisme du marché, et qu'il faudrait faire des sacrifices, et que celui qui a passé sa vie en fer n'en ferait plus, parce qu'il est en retraite, tout d'un coup, ce serait un mauvais croyant, donc quelqu'un qui devrait finalement faire un sacrifice ultime. Encore une fois, les intellectuels musulmans insistent beaucoup sur ça et le risque d'une politique eugéniste. On n'est jamais à l'abri. Il faut toujours avoir une réflexion, je pense, historique. L'histoire est aussi cyclique. Et que peut-être que ce qui était valable dans les années 20, dans les années 30, ce qui se disait assez naturellement, assez froidement, on ne sait jamais ce qui peut aujourd'hui se passer. Et petit à petit, il y a aussi, voilà, il y a aujourd'hui des conceptions de la vie qui peuvent être dangereuses, bon gré mal gré, mais qui peuvent être dangereuses. Sur la reproduction, développement embryonnaire, cellules souches, alors l'idée chez les penseurs musulmans, c'est de pouvoir construire des banques qui contiennent des cellules souches pour des objectifs purement thérapeutiques. On insiste beaucoup là-dessus. Si c'est pour une finalité thérapeutique, oui. Si c'est pour une finalité commerciale, là, ça pose un véritable problème. Donc oui, la culture et la reproduction de ces cellules sont tout à fait légales en islam. En revanche, tout ce qui est clonage total, c'est formellement interdit. Et d'ailleurs, même ce qui précède une tentative de clonage, c'est-à-dire cette volonté finalement de se substituer au divin, d'orienter l'humanité vers une divinisation de l'humain, c'est quelque chose qui est critiqué majoritairement par les penseurs musulmans. Il me semble que dans le christianisme, on dit ce qui est à Dieu, et ce qui est à César est à César. De la même manière, pour paraphraser un peu cette idée, il y a des choses qui relèvent de Dieu et il y a des choses également qui relèvent de l'homme. Et il faut que l'homme, et on considère que l'homme aussi doit aussi se mettre des limites, apprivoiser ses limites et faire que ces limites soient aussi une autre manière aussi de cheminer vers une forme d'émancipation. Parce qu'il y a un ego qui pousse très souvent les hommes, surtout même ceux qui sont dans une démarche scientiste exacerbée, qui après ces tentatives de montrer que Dieu n'existe pas. Ce qui est assez troublant, ce qui est assez aussi drôle, c'est que ces mêmes personnes veulent également se diviniser eux-mêmes. Ils ont passé toute leur formation scientifique à dire que Dieu n'existe pas, et en même temps, eux-mêmes aimeraient devenir une propre divinité. Donc voilà, il y a toute cette réflexion également qui est développée au sein même de la pensée islamique de France. Sur les questions de génétique et de génomique, alors la modification du génome humain pour des raisons encore une fois thérapeutiques est autorisée en islam par l'ensemble des savants musulmans, uniquement pour soigner ou éviter le développement ou l'évolution d'une maladie. Dès lors que, tant qu'on considère cela comme une médecine préventive, très bien. S'il y a d'autres buts, ça pose effectivement problème. C'est la même chose pour les dons d'organes. Tous les dons d'organes sont permis, hormis les organes génitaux. Pour un homme, c'est testicule, et même pour une femme, c'est sain. Ce sont des choses qui ne se transmettent pas. Là, encore une fois, il y a une dimension religieuse et il y a aussi une dimension culturelle, je pense, de pudeur par rapport à cela. Et en même temps, par rapport aux testicules, il y a quand même quelque chose qui renferme aussi une partie de la personnalité, de l'hérédité également que l'on transmet. Et donc, encore une fois, toujours dans l'idée de ne pas mélanger les filiations, c'est des choses que l'on ne transmet pas. Sur les données de santé, le principe est clair, et je pense qu'il est partagé par beaucoup. La divulgation d'éléments personnels d'un individu est bien évidemment complètement prohibée. Alors que ce soit à la fois la divulgation, la commercialisation ou les échanges, c'est prohibé. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où les informations, les data, prennent une place très importante. Et ils vont en prendre de plus en plus dans la société française de demain. Et qu'est-ce que l'on va faire de toutes nos données? J'ai même appris cette semaine qu'il y allait avoir une police fiscale. Il faudra faire attention où est-ce que vous dormez. Si vous dormez dans un Airbnb au Maroc et que vous n'avez pas tout déclaré, faites attention. Donc voilà, toutes ces données-là, à un moment donné, on les centralise. Mais dans quel but? Très souvent, vous faites des recherches actuellement sur Internet. Vous allez faire une recherche sur le football, l'équipe.fr. Vous allez avoir un abonnement France Football quelques secondes plus tard. Donc voilà, il y a aussi toute une réflexion de manière générale par rapport à toutes ces données que l'on collecte pour chacun d'entre nous. Et finalement, où est la vie privée? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce que la vie publique commence, ou est-ce qu'elle s'arrête? Dans les deux cas, c'est une réflexion qu'il faut que les penseurs musulmans aimeraient que la société dans son ensemble puisse avoir. Sur l'intelligence artificielle et la robotisation, parce que dans l'islam, l'homme est au centre de l'univers, est au centre du monde, est au centre de la société, il ne faudrait pas que l'humain soit mis de côté. Et il ne faudrait pas que les robots se substituent à l'homme. Au contraire, penseurs musulmans considèrent qu'il faut associer l'homme dans la réflexion, notamment concernant tout ce qui est robot, tout ce qui est intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut rendre et rend déjà des grands services. Mais quelle est la responsabilité de l'homme ? Est-ce que c'est la responsabilité de la machine? C'est sa responsabilité? Ou est-ce que ça arrête finalement à la responsabilité de l'homme? Or, la responsabilité de l'homme, elle est fondamentale dans les comptes qu'un croyant musulman pourrait avoir demain, le jour du jugement. Et encore une fois, on est dans un univers, on est dans une vision religieuse du monde, et forcément, cette question de la responsabilité se pose. Si vous êtes un chirurgien musulman et que vous avez des machines, des robots qui font votre travail, si jamais il devait y avoir une mauvaise manipulation, c'est la responsabilité de qui ? Devant Dieu, c'est la responsabilité de qui ? Encore une fois, ce sont des questions inédites, même pour les savants musulmans eux-mêmes. Sur la question de la robotisation, les savants musulmans sont pour l'idée, effectivement, que ça allège le travail de l'homme. Mais le travail reste aussi une part de sa dignité. C'est aussi par le travail qu'un homme ou une femme subvient à ses besoins et à ceux de sa famille. Comment psychiquement ces hommes ou ces femmes vont réagir si à un moment donné, il n'y a plus cette possibilité aussi de se réaliser à travers un travail ? Si à chaque fois il y a forcément l'aide d'un robot, si sa seule réflexion c'est d'en faire le moins possible, s'il n'y a plus de réflexion face à même la souffrance, la patience qu'exigent les grandes réalisations. Les grandes réalisations scientifiques, artistiques, il y a toute une étape préalable de souffrance, de travail, de questionnement, de doute. Et toutes ces périodes-là, psychiquement, comment l'homme se réalise s'il ne se les pose plus ? Il reste encore un petit peu de...
Joël, vous avez là ?
Il nous reste ?
Oui, 10h25.
Très bien. De toute façon, j'allais conclure pour lancer ensuite le débat, parce que j'imagine qu'il y a eu une masse importante d'informations. Alors, en conclusion, ce que l'on peut dire sur les penseurs musulmans face à la question bioéthique. Les penseurs musulmans veulent tout simplement rappeler à la société française et à l'humanité que l'homme n'est pas qu'une entité biologique. Et même avant d'être une entité biologique, c'est d'abord une entité spirituelle. Ça fait partie effectivement des convictions religieuses musulmanes qui peuvent être partagées d'ailleurs par les autres religions, notamment monothéistes. Dieu, dans le Coran, parle de cet honneur qu'il a fait à l'homme en lui assujettissant le monde dans lequel nous vivons, les différents règnes, et que parce que Dieu lui a fait cet honneur d'assujettir différents règnes, l'homme a une responsabilité. Et c'est en assumant cette responsabilité aussi qu'il développe également cette liberté de s'émanciper. Comme dans le christianisme, on considère qu'il y a eu une chute, qu'il y a une expérience terrestre, mais que l'idée, c'est aussi d'être capable de dépasser le biologique. Pas d'assujettir le biologique, d'être capable de dépasser le biologique. D'avoir également cette élévation, ce cheminement spirituel, corporellement d'être avec les autres hommes, et spirituellement, avec son esprit, son âme, de renforcer les connexions que l'on peut avoir avec Dieu. Dire cela ne veut pas dire que l'islam et les penseurs musulmans ne favorisent pas les sciences. Il n'y a qu'à regarder les grandes productions scientifiques, que ce soit en mathématiques ou en algèbre avec le Khwarizmi, à la Maison de la Sagesse à Bagdad. Donc l'islam n'a jamais en fait été hostile à la science. Déjà même dans ces cinq piliers, si vous voulez faire la prière, l'islam est très, très vite devenu un empire. Donc forcément les gens, il fallait qu'ils se positionnent vis-à-vis de la Mecque. Donc quand vous avez des anciennes populations byzantines qui deviennent musulmanes, ou des anciennes populations, des populations perses qui se convertissent à l'islam, il y a forcément un positionnement géographique que l'on doit avoir avec la Mecque, et donc forcément il y a des calculs astronomiques pour calculer mon positionnement et me diriger pour faire ma prière. Et ça c'est le deuxième pilier de l'islam. De la même manière, la zakat, qui est une aumône sociale et purificatrice. Vous avez une obligation à partir du moment où vous avez atteint un seuil. Aujourd'hui, ce serait 3000 euros. Si un musulman met 3000 euros de côté, il doit donner cet impôt. Et cet impôt, c'est 2,5% de cette somme. À cette époque-là, il fallait faire des calculs fractionnés. À cette époque-là, c'était quelque chose de nouveau. Donc forcément, à l'intérieur même de l'islam et des piliers de l'islam, il y a eu une incitation finalement à essayer d'aller voir ce que les autres civilisations ont fait sur le plan scientifique. Et donc les musulmans, très tôt, ont pu s'enrichir des travaux de l'école d'Alexandrie, des Byzantins chrétiens, des Perses, et tout ça a fait que... Il n'y a jamais eu, en tout cas, de conflit entre religion et science. Il y en a eu davantage entre religion et philosophie. Mais entre religion et science, beaucoup moins, largement moins. Donc, vraiment, les intellectuels musulmans rappellent cela. Donc, l'idée, c'est d'encourager les recherches scientifiques dans la limite du sacré. Et ça, c'est un challenge que les penseurs musulmans veulent se donner. Il considère également que la bioéthique doit incarner une éthique de la responsabilité, une éthique de la connaissance et de la précaution. L'homme n'est pas un objet à vendre, à commercialiser, et peut-être qu'il serait aussi opportun de démystifier la notion de progrès. La notion de progrès, bon, il serait peut-être un petit peu long de revenir à l'émergence de la science en tant que discipline, mais également de l'émergence en tant du scientifique en tant qu'acteur social, dans une France où vous avez progressivement deux pôles de légitimation du savoir, l'Église d'un côté et la science qui émerge. Donc il y a aussi un rapport également qui est là, et aujourd'hui dans les chez certaines personnes qui ont un rapport scientiste à la science, on est dans des rapports dogmatiques. Et il faut être capable aujourd'hui, et je pense que c'est une invitation à ce que tous les croyants puissent également déconstruire la notion de progrès qui a du mal à cacher peut-être l'envie d'être aussi concurrent face à des visions religieuses qui ont encore toute leur place dans la société française. La pensée islamique de France, elle veut accompagner sereinement le mouvement de l'histoire avec d'autres pensées, qu'elles soient chrétiennes, catholiques et même humanistes. Parce que nous serions très mal inspirés si nous mettions d'un côté les pensées religieuses et de l'autre côté les pensées humanistes. Il y a des réflexions communes. Quand j'interviens avec des gens... J'ai fait des bêtises. Les gens partent effectivement plutôt d'une philosophie humaniste, mais on peut arriver à des espaces d'échanges extrêmement fructueux. Et ça, je pense qu'il faut qu'on garde, nous autres croyants aussi, la porte ouverte à des gens qui sont toujours... Je pense vraiment que l'homme est doté de bon sens, pour paraphraser Descartes. Donc ce bon sens peut toucher tout le monde dès lors que le message religieux est accessible au plus grand nombre. Il y a des finalités qui sont là, qui sont intéressantes et qui sont pour l'humanité. Et il faut être capable aujourd'hui peut-être de les traduire, de les élaborer de manière différente, en tout cas de les présenter à tous les citoyens, quels qu'ils soient. Nous, ce que l'on propose des intellectuels musulmans, c'est de trouver différents équilibres. Des équilibres entre pensée religieuse, pensée philosophique, pensée scientifique. Des équilibres entre le fait de développer de nouvelles possibilités scientifiques et la volonté de rester fidèle, non pas à une tradition religieuse, à une tradition humaine, qu'elle soit religieuse, spirituelle ou philosophique. De la même manière, nous voulons un équilibre entre la transformation extérieure de l'homme et sa transformation intérieure. Là, ce que l'on parle, on parle très peu du cheminement intérieur. L'homme également avance, change et peut se transformer également de l'intérieur et avoir un rapport au corps complètement différent. Ce que l'on propose à la société, c'est d'essayer de sortir un peu de la tentation d'imposer ces paradigmes, qu'ils soient religieux ou scientifiques. Il faut, je pense, les questionner, parce qu'aujourd'hui, la société française est diverse. Il faut assumer cette diversité, être capable d'interroger toutes les familles religieuses, philosophiques et scientifiques, et d'essayer de trouver un espace de compromis, où, peu importe d'où vous venez, peu importe à partir de vos références, nous sommes capables de protéger les intérêts de l'homme. Nous avons fait 7 propositions au comité consultatif national d'éthique. La première, protéger l'homme de l'exploitation de son corps, du non-respect de sa dignité, de la jouissance de son consentement, de son intimité, de sa santé. Deuxièmement, protéger les femmes, notamment de la tentation de commercialiser leur corps et les enfants d'avoir à subir des choix qui ne sont pas les leurs, de ne pas profiter d'une mère et d'un père dans le cadre sécurisant du mariage. Troisièmement, préserver la société française de toute forme d'eugénisme que subiraient les plus âgés ou les plus faibles en France et dans le monde. Quatrièmement, préserver l'homme de sa propre exploitation et de sa réification par un marché que malheureusement certains parmi nos élites considèrent comme divin. Cinquièmement, accompagner l'homme dans la transformation du travail afin de lui donner un rôle nouveau, positif et épanouissant. Sixièmement, définir de nouvelles relations entre l'homme et le robot sur le plan de la responsabilité humaine et de la responsabilité juridique. Et enfin, faire du savoir un bien à partager au sein de l'humanité et un chemin éthique pour l'acquérir. Cette vision du savoir semble malheureusement être menacée par l'intelligence artificielle. Notre objectif, c'est vraiment d'insister sur le développement à la fois social, mais à la fois moral, de la société française et de la civilisation humaine. Et je vous remercie.